Je reçois notre invité à présent sur Liberté FM et au téléphone, Gérard Gonfroy, bonjour. Merci de nous accorder quelques instants. Vous êtes spécialiste d'ancien occitan et auteur d'un ouvrage chez La Geste Édition consacré au troubadour périgourdin. Donc un beau livre qui nous est cher évidemment, nous périgourdins, surtout ribéracois, puisque nous avons un troubadour dans notre ville. Pour quelles raisons vous êtes-vous intéressé à ces 18 troubadours périgourdins ?
Écoutez, donc j'avais envisagé depuis un bon moment déjà de faire une anthologie des troubadours de toute la Nouvelle-Aquitaine. Alors j'ai commencé par le Limousin, ce qui était assez logique, et ensuite, deuxième tome, celui dont vous parlez, les troubadours périgourdins, et ensuite je terminerai avec d'une part le Poitou, la Charente, les Charentes, la Saintonge, et enfin le dernier tome, le tome 4, sera consacré à la Gironde et au troubadour gascon. Alors pourquoi les périgourdins ? Mais parce qu'ils sont à la fois proches des troubadours limousins et très originaux, d'une très grande originalité. En deux mots, si vous voulez bien, les troubadours périgourdins ne sont pas socialement du tout du même type que les limousins. Dans les limousins, vous avez beaucoup de grands seigneurs. Là, en dehors de Bertrand de Born et encore, il faut relativiser, ce sont essentiellement des clercs. Ils ont reçu une culture latine, une culture lyricale, une culture musicale. Ils deviennent jongleurs, c'est-à-dire interprètes. Et comme ils n'ont pas sur place les cours qui leur permettraient de faire fortune, eh ben ils vont chercher fortune ailleurs. Et ils sont allés chercher fortune en Espagne du Nord, Catalogne, Aragon, et puis également, et surtout, je dirais, en Italie. Italie du Nord, où ils vont s'installer et connaître, pour certains d'entre eux, Elias Querelle, Guillaume de la Tour, connaître un grand succès. Et les plus courageux iront même jusque dans les principautés d'Orient latin.
Quelle était la différence entre un troubadour périgourdin et limousin, par exemple, ou peut-être bordelais ?
Il y a d'abord une différence sociologique. Les troubadours limousins ont eu la chance qu'il y ait quatre vicomtés autour de Turenne, Combornes, Ventadour, Ussel, qui vont leur permettre de trouver sur place des spectateurs attentifs. Et donc ça va leur permettre, en gros, de faire l'essentiel de leur création sur place. Rien de tel pour la Dordogne, et donc ils vont, à l'exception de Bertrand de Born qui va officier sur toute l'Aquitaine, les autres vont s'en aller. Ils vont encore une fois aller très loin parce qu'ils n'ont pas, si j'ose dire en termes modernes, de débouchés sur place. L'autre différence essentielle, c'est que pour les troubadours limousins, la chanson d'amour est ce qu'ils prévaient et élégient. La grande majorité du corpus est faite de chansons d'amour. En revanche, chez les troubadours périgourdins, l'essentiel, c'est ce qu'on appelle le Silventes. C'est un poème qui se présente comme une chanson, mais c'est un poème politique, moral. Et donc, il privilégie l'étude politique. Par exemple, on va avoir des Silventes extrêmement violents contre tel ou tel personnage, ou au contraire, comme c'est le cas chez Bertrand de Born, exaltant à la guerre. Vous allez avoir des Silventes moraux du type « Ah, c'était beaucoup mieux avant !» Et ce qui est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui très largement. Avant, les nobles étaient généreux, avant, les nobles étaient courageux, et aujourd'hui, il n'en est plus rien. Et puis, vous avez aussi, chez les troubadours périgourdins, quelque chose de très important pour ceux qui s'intéressent à la poésie. Ils réfléchissent sur ce qu'ils appellent l'art de trouver, l'art de composer. Et ils sont pris dans une sorte de dilemme entre une poésie raffinée, complexe, mais qui ne s'adresse qu'à un tout petit nombre, et une poésie plus facile, légère, comme ils disent, qui s'adresse au plus grand nombre. Ils voudraient bien essentiellement être de côté du raffinement, de la culture la plus subtile, mais en même temps, s'ils veulent avoir un public, il faut être compris. Et donc vous avez des débats très intéressants entre ces deux types d'art de trouver. Et puis vous avez un personnage extraordinaire qui est donc Arnaud Daniel, votre troubadour, oui. Le troubadour de Ribérac, qui a inventé des formes nouvelles extrêmement subtiles.
De quel milieu venaient ces troubadours périgourdins? Est-ce qu'ils avaient un milieu aisé qui leur permettait ensuite de rentrer dans les cours ou pas?
Non. Ils se sont forgés eux-mêmes leur réputation. Mais si on prend par exemple le cas de Guiraud de Borneil, au départ, c'est vraiment un clerc qui connaît très bien le latin, mais c'est tout. Et il s'est forgé une réputation auprès d'un certain nombre de grands seigneurs, mais qui ne sont pas du tout périgourdins, hein. Grand seigneur en Aragon, grand seigneur en Provence. Et avec cette réputation flatteuse, il a réussi à accéder au rang de troubadour, c'est-à-dire de créateur. Et on le représente dans les manuscrits, accompagné de deux jongleurs. Et donc, on voit bien le statut différent. Les jongleurs sont d'ailleurs dans les manuscrits. Derrière lui, il y a le créateur, lui, qui revendique sa position de créateur, et puis il y a les jongleurs qui sont les interprètes. Donc en fait, leur culture initiale leur a permis de devenir interprètes, chanteurs, et pour un certain nombre d'entre eux, d'autres, on a perdu la trace, hein, mais pour un certain nombre d'entre eux, ils vont accéder au rang de troubadour, c'est-à-dire de créateur.
Et donc ils avaient chacun leur style propre.
Ah oui. Alors, à part quelques médiocres dont on n'a que quelques pièces et qui finalement se sont contentés de répéter la chanson d'amour classique, tous les autres sont vraiment très originaux. Si je prends les trois plus importants, Bertrand de Borne, c'est le maître des armes, le maître de la guerre. Ses chansons sont des chansons guerrières. Arnaud Daniel, c'est l'inventeur de la poésie pure, qui va fasciner jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'Oulipo, jusqu'à Ezra Pound, etc. Et puis Guiraud de Borneil, c'est le maître de la sagesse. Dante l'appelle donc le maître de la rectitudo, c'est-à-dire la rectitude en français, la droiture morale. Ils sont donc très différents.
Et qu'est-ce qui fait que ces troubadours, pour quelques-uns seulement d'entre eux, puisque dans votre ouvrage, chez La Geste Édition, vous en mettez 18 en avant et à l'honneur, qu'est-ce qui fait que seulement 18 troubadours ont traversé 10 siècles et sont parvenus jusqu'à nous?
On peut renverser votre question en se demandant combien on en a perdu en route. Si vous voulez, on ne peut pas avoir de chiffres précis, on peut simplement dire ceci. Étant donné que, à cause de la croisade des Albigeois, tout ce qui faisait le terreau favorable en Languedoc, etc., a disparu, ces troubadours ont été obligés d'aller, pour la plupart, en Italie. Et donc en Italie, certains ont réussi, d'autres non. Et si on les a conservés, ceux-là, c'est parce que dans énormément de manuscrits, ils sont en bonne position, mais ce sont des manuscrits qui ont été composés en Italie. Le premier d'entre eux, par exemple, est composé à Venise vers 1240. Donc, c'est évidemment le tri qui a été opéré par les troubadours italiens qui fait que cela donne aujourd'hui un reflet particulier. En revanche, les 18 troubadours de type périgourdin, je les ai tous cités. Hein. C'est-à-dire que vous avez au total 220 pièces composées par des troubadours périgourdins, et donc il y a un quart de ces pièces dans l'anthologie, 55, sachant, et ça c'est évidemment très significatif, que deux d'entre eux, Bertrand de Borne, 40 pièces, et Guiraud de Borneil, 70 pièces, à eux deux, font la moitié du corpus. Donc ça vous explique que pour d'autres, on a juste une pièce ou deux.
Pour nous qui, bien sûr, allons être chauvins sur Ribérac, qu'est-ce qui fait que Arnaud Daniel s'est démarqué finalement des autres troubadours pour être encore connu et reconnu aujourd'hui?
Écoutez, la raison principale, c'est qu'il a fait un effort sur le style et sur le travail poétique extraordinaire, exceptionnel. Et ensuite, ce travail qui culmine avec la fameuse sextine, hein, une pièce incroyable, 6 strophes de 6 vers avec 6 mots rimes qui sont donc ben, qui permutent, pardon, par une formule mathématique qu'on a découverte que bien plus tard. Cet art poétique très particulier, il a été immédiatement salué par Dante, par Pétrarque. Dante et Pétrarque ont fait à leur tour des sextines et ont, chacun, dans leur style, dit que c'était le premier des premiers. Par exemple, Dante lui accorde ce privilège incroyable de le faire parler en occitan, dans la Divine Comédie. Et Pétrarque dit, il avait un style extraordinaire, compliqué, mais tellement beau. Et ensuite, donc, la réputation va se poursuivre. Par exemple, Paul Auster, dans son roman Invisible, roman tout récent, a un grand personnage qui s'appelle donc Borne, et qui passe sa vie dans le roman à se demander s'il n'est pas l'héritier des troubadours du temps de Borne et d'Arnaud Daniel. Et puis donc Loulipo s'est emparé de la sextine comme une espèce de modèle absolu de poésie pure.
Est-ce que ces troubadours étaient le reflet de leur époque ?
Ah, ça c'est difficile à dire. Pour Bertrand de Borne, assurément. Pour les autres, on voit donc ici ou là, sous forme de confidence, hein, que les temps étaient difficiles, incontestablement. Pensez que les voyages qui les conduisaient, par exemple, en Italie du Nord, ou pire encore, en Roumanie, enfin, on parle de Romanie, c'est-à-dire la Grèce, hein, pas la Roumanie actuelle, mais la Grèce. C'était très très long, et donc livré au hasard. Pour ceux qui ont fait, qui sont allés en croisade, pour cela, c'était très difficile. Il y avait les corsaires, il y avait le scorbut, il y avait les maladies diverses qu'on pouvait attraper. Donc, on sent bien que c'est difficile, que les temps sont difficiles. En même temps, ils chantent l'amour, et on voit qu'ils ont plaisir à exposer leur vision du monde.
Ils avaient besoin, finalement, de parcourir des terres pour chercher fortune, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Gérard Gonfroy, mais aussi pour se faire une réputation.
C'est ça, absolument. Et donc, le point de départ, c'est d'avoir un ou des mécènes, qui sont souvent de grands seigneurs, par exemple, souvent, en Italie, c'était la famille des Malaspina, qui a accueilli beaucoup de troubadours, parce que là, ils vivaient correctement, ils étaient, disons, dans un contexte favorable, on leur fournissait, comme disent les textes, nourriture, vêtements, chevaux éventuellement, donc il y avait un climat favorable, et donc du coup, par exemple, un certain nombre de ces troubadours qui sont allés en Italie rendaient ces avantages en faisant des sirventes, des poèmes à l'honneur de telle ou telle dame, ou de tel ou tel grand personnage lui-même.
Est-ce qu'ils étaient montés sur un pinacle, comme aujourd'hui des idoles ou des vedettes, voire des stars le sont ?
Alors, on ne peut pas le dire de cette façon. Ce qui est frappant, c'est que, par exemple, Anghiro de Borneil se trouve en tête de beaucoup de manuscrits. Or, les manuscrits sont classés, en quelque sorte, par ordre décroissant d'importance. Et donc ça veut dire qu'ils étaient considérés, hein, Guillaume de Borneil, par ses contemporains, comme le maître des troubadours. Donc il y avait bien cette espèce d'effet. Bon, on ne peut pas comparer, il n'y a pas de médias, hein, on ne peut pas comparer avec les temps modernes, mais pour une série de connaisseurs, oui, ils étaient appréciés. Par exemple, Arnaud Daniel était tout de suite apprécié. En Dordogne même, mais en Dordogne même, parce que par exemple, Bertrand de Borne le salue. Hein, c'est un peu rare, il n'y a pas beaucoup de contacts entre eux, parce qu'ils sont partis. Mais par exemple, Bertrand de Borne et Arnaud Daniel se connaissaient. Et Arnaud Daniel va acquérir très vite cette réputation de poète à la fois très compliqué, mais très remarquable.
Est-ce que les traductions, parce que le langage n'était pas le même, évidemment, il y a 10 siècles que celui que nous connaissons et pratiquons aujourd'hui, est-ce que la traduction de ces poèmes, ou pour en revenir à Arnaud Daniel, de ces fameuses sixtines, ont été correctes ? Ils représentent bien, alors, finalement, les propos.
Alors, bon, mon anthologie, donc, se caractérise par le fait que je suis revenu aux manuscrits et que je propose à chaque fois des traductions originales. Donc tous les poèmes sont traduits, mais il est bien évident que dans le cas d'Arnaud Daniel, la traduction est un exercice difficile parce que le texte est très difficile. Je vous signale quand même que beaucoup de ses poèmes n'avaient pas été traduits en français jusqu'à présent. Guiraud de Bourneuil, par exemple, il existait des traductions allemandes très anciennes ou anglaises un peu plus récentes, mais pas en France. Donc vous trouverez là, pour la première fois rassemblés, les textes, les traductions des troubadours périgourdins.
Merci beaucoup Gérard Gonfroy. Les troubadours périgourdins chez la Geste Édition, donc dans toutes les bonnes librairies, je suppose. Et vous serez le samedi 7 février prochain, donc à Ribérac, pour une conférence. Et on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Merci beaucoup pour ces quelques minutes.
Avec plaisir.